La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. À partir du milieu des années 1970, Michel Foucault travaille entre autres sur le néolibéralisme. Ce n'est pourtant que plus de 20 ans plus tard que nous aurons l'occasion de prendre connaissance véritablement de ses travaux avec la publication au début des années 2000 de ses cours au Collège de France. Entre-temps, son quasi-contemporain et un bref moment collègue au Collège de France, Pierre Bourdieu, avait lui aussi fait du néolibéralisme l'un de ses objets, mais autrement et dans une société et une économie déjà profondément transformées par ce néolibéralisme en question. Alors, Christian Laval a relu et Foucault et Bourdieu sur la question néolibérale et publie un essai aux éditions La Découverte. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Christian Laval est professeur de sociologie à l'université Paris-Nanterre et il a donc relu Foucault et Bourdieu. Et nous allons avec lui relire, remettre sur le métier cet objet du néolibéralisme, en un autre mot, recommencer. Et c'est le titre du livre de Mathieu Pott-Bonneville, philosophe, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de cette émission, qui publie un livre donc recommencé, qui est aussi un texte littéraire, philosophique. Et Mathieu Pott-Bonneville, ayant beaucoup travaillé sur Michel Foucault, il me semblait que le dialogue sera entre les deux fécond. Bonjour Christian Laval.
Bonjour.
Alors, sur la couverture de votre livre, de photos de ces deux grands penseurs français de la fin du XXe siècle, deux noms qui sont encore extraordinairement présents aujourd'hui dans les bibliographies des chercheurs au plan international, deux références qui continuent d'être énormément mobilisés, deux hommes que seulement 4 ans séparent. L'un est né à la fin des années 20 et l'autre au début des années 30. Et pourtant, deux parcours assez parallèles qui se croisent brièvement au Collège de France, qui sont liés à certains égards dans leur formation philosophique. Un nom est très important, celui probablement de Georges Canguilhem, qui va être une référence pour l'un et l'autre, mais en même temps une assez grande distance et une difficulté à penser ensemble Foucault et Bourdieu. D'ailleurs, je voulais commencer par là, Christian Laval, vous avez choisi de consacrer la moitié du livre à Foucault, l'autre moitié à Bourdieu, et vous ne vous êtes pas véritablement aventuré à croiser les deux pensées. Vous les avez apposées en quelque sorte.
Oui. D'abord, vous avez raison, ce sont des presque contemporains. L'un est né en 1926, l'autre en 1930. Ils ont des parcours parallèles, ils ont fait les mêmes études. En gros, ils ont été en philosophie, normal sup, ils ont passé l'agrégation. Et puis, ils ont terminé à l'apogée de leur carrière au Collège de France. Ce sont deux intellectuels français parmi les plus lus et les plus connus dans le monde. Et ils ont, en effet, l'un et l'autre, à des années de distance, pris comme objet le néolibéralisme. Et là, il y avait une curiosité à explorer. Mais fallait-il les faire se rencontrer? Ce que j'ai plutôt essayé de faire, c'était de rendre à chacun justice, si je puis dire. C'est-à-dire à rendre à chacun sa vérité, son parcours, sa trajectoire, qui est au croisement, pour l'un et pour l'autre, d'un parcours de recherche, qui a sa logique propre, et il me paraît tout à fait important de rendre la logique de chacun des auteurs, et en même temps, qui chacun rencontre dans son actualité le néolibéralisme, c'est-à-dire au fond un système politique, un mode de gouvernement, un type de domination. Et ce qui me semblait important, c'était de laisser au lecteur, comme je l'ai fait moi en tant qu'auteur, laisser au lecteur la plus grande liberté de faire ces croisements-là par un jeu d'écho. Je donne quelques pistes, je donne quelques indications.
En introduction, en conclusion, vous y revenez.
Vous avez bien vu qu'à certains moments, effectivement, je dis bien peut-être là, il faudrait retourner sur voir ce que dit Foucault, ou plus quand je parle de Foucault, aller voir du côté de Bourdieu. Il y a tout un jeu d'écho que le lecteur pourra faire lui-même.
Ma remarque n'était absolument pas un reproche. Je pense que vous avez été prudent et vous avez eu raison, parce que sinon seraient rabattues ces logiques de l'œuvre dont vous parliez. Et puis il y avait un autre problème qui est celui du décalage temporel. Je le soulignais dans l'introduction, aussi paradoxal que cela puisse être, lorsque Bourdieu commence à travailler sur le néolibéralisme, a priori il aurait pu s'appuyer sur les réflexions de Foucault. Pourtant, il ne les a pas connues, il ne les a pas lues probablement, il n'a pas assisté aux cours de Foucault à la fin des années 70, et ses textes n'étaient pas disponibles. Et donc, ce sont deux réflexions qui sont étanches de ce point de vue.
Alors, c'est très curieux. Il y avait possibilité pour Bourdieu de connaître au moins les résumés de cours du Collège de France. Il y avait quand même, en France et à l'étranger, des références à ce travail de Foucault sur la gouvernementalité. Mais en réalité, effectivement, j'y vois un certain fonctionnement de la vie intellectuelle en France à un certain moment. Ce n'est pas que je les rends étanches l'un à l'autre, c'est que, d'une certaine façon, ils fonctionnaient de façon étanche, dans un certain isolement. La preuve, c'est la rareté, l'extrême rareté des citations, des mentions même, que l'un fait au travail de l'autre, comme s'il s'ignorait, alors qu'il pouvait s'apprécier sur le plan personnel. À l'exception, et j'en fais quand même grand cas, des hommages de Bourdieu, lors du décès de Foucault. Les propos qu'il tient alors sont quasiment des propos autobiographiques. Enfin, on a l'impression que c'est son autoportrait qu'il fait en parlant de Foucault. Et donc, il y avait sans doute une plus grande proximité intellectuelle, mais aussi affective, et sans doute, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, que leur maître qu'ils partageaient, si je puis dire, leur maître commun, Canguilhem, les unissait très profondément, peut-être inconsciemment, mais très profondément. Et, par exemple, c'est un des indices que je lâche à un certain moment dans le livre, le fait que l'un et l'autre, au cœur de leur analyse du néolibéralisme et plus généralement du pouvoir, situent ou renvoient à l'analyse qu'a fait Canguilhem du milieu, de l'histoire du concept de milieu, est quelque chose, me semble-t-il, d'important et qui précisément permet de faire fonctionner un petit jeu d'écho entre les deux.
Le décalage, il tient aussi au rapport à l'engagement dans la vie publique. Là où Michel Foucault est précoce s'agissant de ses interventions, ce qu'il conduit d'ailleurs à théoriser d'une certaine façon ou proposer cette expression d'intellectuel spécifique, là où on le voit s'engager avec le GIP au début des années 70, pour ne prendre que cet exemple, Pierre Bourdieu mettra beaucoup plus de temps à intervenir dans l'espace public de façon systématique. Il faudra attendre La misère du monde, on va dire, puis le mouvement de 1995 pour le voir prendre cette posture-là. Et probablement, peut-on faire l'hypothèse que s'il prend cette posture, c'est grâce en partie à ce que Foucault a pu dire de la manière d'intervention que l'intellectuel pouvait avoir dorénavant en s'appuyant à la fois sur des recherches mais sans non plus tomber dans la posture de l'expert que l'un et l'autre récusaient, Christian Laval.
Oui, alors c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a un décalage temporel. Il y a même une certaine répulsion chez Bourdieu à jouer le même rôle ou à occuper la même place. Je pense qu'il avait justement un regard assez critique sur la façon dont un certain nombre de philosophes dans les années 70 étaient intervenus sur la place publique. Le fait que les philosophes descendent dans la rue, etc., ne lui plaisait guère.
Et même, anecdote, puisque il avait raconté dans un avoinu assez récent avec lui sur l'antenne, en mai 68, Pierre Bourdieu est au café Le Tournon avec Jean-Claude Passeron et il corrige les épreuves du métier de sociologue, à peine intéressé par ce qui se passe dans la rue.
Oui, alors, ça c'est vrai, mais il y a aussi, je pense, quelque chose qui est oublié et qui a été justement remis au devant de la scène, qui a été remis en circulation. Ce sont tous les textes que Bourdieu a produits depuis la guerre d'Algérie, puisqu'il était en coopération là-bas, il faisait de la recherche, mais tous les textes aussi des années 60 et 70 qui portent sur des tas de sujets, en particulier sur des sujets scolaires, universitaires, qui concernent des tas de mobilisations. Donc, un Bourdieu qui se serait totalement abstenu de l'intervention publique est puni des fausses. Néanmoins, il est vrai qu'il ne joue pas le rôle pendant longtemps de l'intellectuel public. Il va le jouer à partir des années 90. Le point de départ est peut-être cette émission avec l'abbé Pierre, qui est un peu une rencontre incongrue.
À l'invitation de Jean-Marie Cavada.
Voilà, de Jean-Marie Cavada, autour de la misère du monde. Et c'est à partir de ce moment-là que Bourdieu devient un intellectuel public, central, dans l'espace intellectuel. Et ce qui est tout à fait à remarquer, c'est qu'il devient un intellectuel public à partir du moment où on le reconnaît comme celui qui porte une voix critique à l'égard du néolibéralisme.
Alors justement, ce décalage par rapport au néolibéralisme est très important, ce décalage temporel, parce que au moment où Michel Foucault, au milieu des années 70, tente de penser le néolibéralisme, il est face à un phénomène historique très nouveau. Beaucoup d'historiens aujourd'hui, avec du recul, peuvent dater l'ouverture d'une nouvelle période pour l'économie mondiale, des chocs pétroliers, de la dérégulation, disons en 72, 73, 74, il se passe beaucoup de choses. Michel Foucault très vite va penser un certain nombre de ces transformations. Bourdieu, lui, interviendra 15 ans, 20 ans après, à un moment où ces transformations, assez peu pensées au plan intellectuel, auront déjà produit des effets très concrets sur les sociétés dans lesquelles nous vivons.
Voilà. Je pense que pour parler d'abord de Bourdieu, je pense qu'il a eu un retard à l'allumage, si je puis dire familièrement, c'est-à-dire que...
Mais comme la plupart des observateurs
sur cette question. Comme la plupart des observateurs, c'est-à-dire qu'il est lancé sur cette trajectoire. Ce qui l'intéresse plutôt, c'est le rapport du pouvoir aux grandes idéalités. C'est une démarche qui est... pour l'essentiel, une démarche critique de l'idéalisme, du philosophisme dans le champ intellectuel. C'est quelqu'un qui pense que, pendant très longtemps, que le capital culturel, c'est le capital dominant, que le système d'enseignement est le levier de la reproduction sociale et de la domination. Et donc, qui, à un certain moment, va laisser un peu de côté, justement, ces transformations. Qu'il ne voit pas, qu'il ne perçoit pas, ou qu'il percevra après, et après coup, si je puis dire. Puisque, c'est après coup qu'il reviendra sur les transformations des années 70 et 80. Un bon exemple, c'est l'analyse qu'il fera pendant des années, à partir des années 80, sur les transformations du marché de la maison individuelle.
De l'immobilier, oui.
Et en fait, il s'apercevra que les commissions, la commission Barre, etc., qui s'occupait de ça, était une commission qui menait une politique de construction du marché. Mais c'est après coup.
Mais il y avait des jalons quand même, parce qu'il y a l'article avec Luc Boltanski sur l'idéologie dominante, qui est un moment fort du milieu des années 70. Donc il y avait malgré tout une attention, et ces enquêtes sur l'immobilier, elles sont démarrées, elles mettent très longtemps à se faire, les résultats seront publiés très tard. Mais au fond, il y avait probablement une préoccupation déjà là.
Alors il y a un rythme évidemment de la recherche chez Bourdieu. En fait, pendant les années 60 et début des années 70, il faut quand même dire que c'est le système d'enseignement, c'est l'école, c'est la culture qui l'intéresse. Il suffit de regarder un petit peu les sommaires d'actes de la recherche en sciences sociales, la revue de Bourdieu, pour s'apercevoir que c'est plutôt, disons, les champs des biens symboliques qui sont dominants. Mais il y a ce texte. Et vous avez raison, ce texte, la production de l'idéologie dominante, en 1976, est un texte exceptionnel, sur lequel d'ailleurs il reviendra après, et dira, voyez, c'est dans les années 90, voyez, peut-être que à ce moment-là, nous avons décelé quelque chose. Et en effet, ce qu'il voit, c'est un changement, je dirais, du lexique, de la rhétorique et même de la syntaxe, du pouvoir conservateur qui, justement, ne veut plus conserver par l'immobilité, mais par le changement permanent. Et on a là, quand même, un des traits assez singuliers de la domination néolibérale, qui est une domination qui fonctionne à la subversion générale, finalement, des modes de fonctionnement, des institutions, des dispositifs, etc.
Quand Foucault écrit sur le néolibéralisme, au milieu des années 70, à partir de ce moment-là, on est dans un moment politique particulier, non seulement économique, les changements dont je parlais à l'instant, mais aussi politique particulier. Et il y a eu l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, mais il y a cette gauche française qui émerge et parviendra à prendre le dessus sur le Parti communiste. Michel Foucault est très attentif à ce qui se passe à l'intérieur du Parti socialiste, au point qu'il va faire des références dans ses cours, au discours, au débat autour de la social-démocratie, et donc à la manière dont cette social-démocratie se positionne par rapport à la tradition libérale. Il s'intéresse à ce qui se passe en Allemagne, aussi bien du côté de l'ordolibéralisme que du côté de la social-démocratie allemande. C'est un laboratoire qu'il regarde de près, Christian Laval.
Oui, alors Foucault, justement, c'est quelqu'un qui est extraordinairement attentif à l'actualité. On sait que toute sa démarche consiste très explicitement à faire le diagnostic le plus exact de son actualité. Et même s'il est plongé dans des travaux qui l'amènent à des lointains théoriques, il est toujours attentif à ce qui se passe dans cette actualité. Il a été attentif au mouvement gauchiste, il est attentif aux transformations qui se passent du côté du Parti Socialiste, et il est aussi très attentif à ce qui se passe du côté de la droite. Et peut-être plus du côté de la droite d'ailleurs que du côté de la gauche. Parce que ce qu'il voit avec l'élection de Giscard d'Estaing, est-ce que peu de gens à l'époque ont pu cerner, discerner, repérer, c'est un changement dans le mode de gouvernement. C'est qu'on ne gouvernera plus à la manière du souverain ancien comme l'incarnait De Gaulle et puis ensuite ceux qui l'ont suivi. Au fond, on va gouverner autrement, on va gouverner par le marché. On va gouverner par l'intégration dans l'Europe. Et c'est tous les discours de Giscard, mais aussi de Raymond Barre. On va gouverner par la diffusion de normes libérales, par l'importation et ça nous renvoie à l'Allemagne, par l'importation, dit-il, des modes de gouverner propres à l'ordolibéralisme allemand. Et ça, quand il le dit, donc en 78-79, c'est quand même extrêmement nouveau. Je pense que peu de gens, à l'époque, savaient ce qu'était l'ordolibéralisme. Les étudiants économiques pouvaient le savoir s'ils avaient lu le manuel de Raymond Barre. Mais même dans les sciences économiques, dans les facultés de sciences économiques, c'était quand même un courant très très peu étudié. De la même façon, la référence à Hayek était assez exceptionnelle. Et on sait que Raymond Barre était un traducteur de Hayek. Donc il est très affûté, très aigu, si je puis dire, dans ce repérage d'une inflexion dans le mode de gouverner.
Il y a un point commun, un autre dont on n'a pas parlé encore, entre Michel Foucault et Pierre Bourdieu, qui peut-être permet d'expliquer en partie pourquoi ils sont attentifs à ce qu'ils vont appeler l'un et l'autre de manière un peu différente néolibéralisme et qui nous concerne, mais en tous les cas qui, pour aller vite, désigne des transformations rapides qui ont cours dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, c'est le rapport de l'un et l'autre au marxisme, au fond. S'ils peuvent prendre pour objet ce néolibéralisme, c'est parce qu'ils ne sont pas encombrés d'un bagage marxiste au plan théorique. Ils n'ont jamais été, contrairement à ce que certains peuvent dire qu'ils ne les ont pas lus et qu'ils se permettent d'en parler sans les avoir lus, l'un et l'autre marxistes.
Ouais. Remarquez bien que c'est ce qu'il aurait souvent reproché. Justement,
par contre encore.
Justement par ceux qui s'en réclament, et qui s'en réclament encore, effectivement. Donc, effectivement, vous avez raison. Alors, le rapport à Marx est un rapport assez compliqué pour l'un et pour l'autre. Ce n'est pas un rejet complet. C'est au contraire une façon de prendre Marx au sérieux, de prolonger ses analyses, mais autrement. C'est-à-dire la meilleure façon pour eux, pour l'un et pour l'autre, me semble-t-il, d'être fidèle, c'est justement de s'en éloigner et de mettre en œuvre des concepts qui viennent de Marx, mais aussi d'autres concepts, de les mêler. Bon, pour Foucault, il est assez clair que pendant toute une période, Marx est vu comme quelqu'un qui est bien inscrit dans la culture du 19e siècle, dans l'épistémé du 19e siècle, et qui finalement est comme un poisson dans l'eau dans ce moment historique-là. Mais bien après, dans les années 70, Marx est une référence extrêmement importante. Avec un certain nombre de collègues et d'amis, nous avons consacré d'ailleurs un colloque entier au rapport de Marx et de Foucault. Et on voit bien que, par exemple, dans les premiers cours du Collège de France, la société punitive par exemple, Marx est une référence omniprésente. Ce n'est donc pas une opposition frontale. Je pense que c'est plutôt l'idée qu'il faut prolonger Marx et qu'il faut le critiquer lorsque c'est nécessaire, en particulier, semble-t-il, dans l'idée que c'est l'économie, l'infrastructure économique qui détermine toutes les superstructures, etc., etc. C'est aussi une récusation due de la grande dialectique historique qui voudrait que le socialisme et le communisme émergent spontanément, si je puis dire, par une grande loi historique du capitalisme. Tout ça est récusé. Alors chez Bourdieu, c'est autre chose, c'est l'idée que, là aussi, il faut renvoyer aux oubliettes, si je puis dire, de la philosophie de l'histoire, l'idée que, finalement, les choses, le cours historique nous mènera au socialisme. C'est l'idée aussi qu'il faut récuser que la domination serait seulement centrée sur l'économique. Pour Bourdieu, la domination est totale et, justement, elle s'exerce par des moyens autres que l'économie. Par l'économie, mais aussi par autre chose.
En vous lisant, Christian Laval, je me suis demandé, en fait, assez rapidement si l'une des différences principales entre Foucault et Bourdieu sur la question du néolibéralisme ne tenait pas au fait de savoir si, d'une certaine façon, on pourrait dire que Michel Foucault est un libéral. Je ne dis pas un néolibéral, pas du tout. Là où Bourdieu ne se définit pas comme ça, et dans un rapport beaucoup plus distant au libéralisme classique, au libéralisme politique, alors que Michel Foucault le défend, il tient, il est l'héritier d'une tradition du libéralisme politique.
Oui, en fait, je crois qu'il est très difficile de dire ce que vous dites.
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse, oui, mais justement qu'il faut questionner assez sérieusement, parce que c'est aussi un lieu commun, de penser que parce que quelqu'un parle du libéralisme, il y adhère. Foucault est très clair. Il dit il faut toujours distinguer celui qui parle et ce dont il parle. Et je crois que c'est un précepte qu'il faut suivre. Foucault ne s'intéresse pas, en tant que tel, à la doctrine libérale ou à la doctrine du libéralisme politique. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, qu'il y voit, dans la continuité de sa recherche. Et ça, c'est très original. Et ça le distingue, justement, des commentateurs de la philosophie politique. Ce qu'il y voit, c'est un mode de gouvernement. Et c'est sans cela que c'est très original. C'est-à-dire que la liberté va fonctionner justement non pas seulement comme un idéal, comme un maître mot, ou même comme un principe d'organisation des pouvoirs publics et de la société civile. La liberté, c'est un moyen de gouverner. On s'appuie, les gouvernants vont s'appuyer justement sur la liberté des sujets pour pouvoir réaliser un certain nombre de fins qu'ils se sont fixées.
Organiser les conduites.
Alors, c'est vrai, organiser les conduites, voilà le principe même du gouvernement libéral. Et c'est ça qui l'intéresse. Et plus encore, c'est la liberté économique qui va surtout le préoccuper. C'est qu'on va gouverner à partir de l'intérêt. Il le dit très clairement, justement, dans son cours « La naissance de la biopolitique », que je commente assez longuement. Il le dit, c'est un gouvernement par le maniement, la manipulation des intérêts. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il donne une si grande place, ce qui n'est pas fait en général par la philosophie politique, surtout en France, il donne une si grande place à Bentham. Non pas le Bentham du panoptique, comme il l'avait fait dans Surveiller et punir, mais un autre Bentham, le Bentham justement qui pense que le gouvernement ne peut s'exercer que par des mesures d'incitation, par une législation oblique, et par justement ce que Foucault appellera des dispositifs de régulation, des dispositifs de sécurité. C'est-à-dire que non pas une imposition de normes pour dresser les gens, les contrôler, etc. Mais au contraire, pour les laisser agir, tout est les incitant, les canalisant. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui l'intéresse dans le libéralisme.
Christian Laval, vous n'êtes pas un historien des idées, vous êtes un sociologue. Vous vous efforcez de penser le monde contemporain. Alors, après avoir relu Michel Foucault et Pierre Bourdieu sur la question du néolibéralisme, comment vous en servez-vous pour penser la situation dans laquelle nous sommes? En quoi les réflexions de l'un et de l'autre, les concepts qu'ils ont forgés, les observations qu'ils ont faites à des moments différents, avec des outils différents, peuvent nous être utiles aujourd'hui pour penser l'homme économique, pour reprendre le titre d'un de vos livres, qui, je crois, fait pour vous converger un peu ces approches?
Oui, alors là, vous m'amenez sur le terrain un peu biographique ou biobibliographique. C'est que, en fait, dans mon travail et dans celui que j'ai fait avec Pierre Dardot, nous nous sommes appuyés sur Foucault, très largement, en particulier dans le livre que nous avons consacré en 2009 au néolibéralisme, qui s'appelle « La nouvelle raison du monde ». Donc, ce livre, « La nouvelle raison du monde », était le résultat d'un choc, on peut le dire ainsi, d'un choc que nous avons ressenti à la lecture de La naissance de la biopolitique, livre paru en 2004, qui a été pour nous un déclencheur. Déclencheur de quoi? Eh bien d'une révision de la façon dont nous avions jusque-là perçu, analysé le néolibéralisme, qui était pour ma part, je parle pour moi, pas pour Pierre Dardot, pour ma part, était très marqué par Bourdieu. Et d'une certaine façon, ce livre, c'est une façon de revisiter aussi ceux qui m'ont influencé dans le travail que j'ai fait dans l'homme économique et dans celui que nous avons fait dans La nouvelle raison du monde. Mais nous en sommes venus avec un autre livre qui a suivi, qui s'appelle Le cauchemar qui n'en finit pas. Nous avons fini par essayer d'articuler le point de vue de Foucault, qui est un point de vue, justement, comme je disais, de conduite des conduites, qui consiste à se demander toujours par quels moyens un pouvoir d'entreprise, un pouvoir administratif, etc., cherche à manier les gens, à les amener à faire ce qu'ils devraient faire. Et d'autre part, les systèmes de domination plus cristallisés, plus installés, que permet peut-être mieux d'analyser la sociologie de Bourdieu. Donc ce n'est pas tant qu'il faut les réunir absolument, mais la période que nous vivons, est une période où se sont multipliés les dispositifs de gouvernementalité néolibérale tels que Foucault les a très bien analysés, et en même temps une période dans laquelle se sont cristallisés les systèmes de domination de type néolibéral.
On est aussi dans une situation désormais qui est fort différente de celle qu'ont connue Pierre Bourdieu et a fortiori Michel Foucault, à savoir davantage de réflexivité sur ce néolibéralisme. On a vu quand même paraître depuis maintenant une quinzaine d'années des travaux, des enquêtes empiriques, des livres plus théoriques qui tentent de penser ces questions. Vous citez par exemple le travail de Wendy Brown, qui est un travail précieux, mais il y en a beaucoup d'autres et je ne vais pas les mentionner ici. Donc là, on est mieux armé quand même que ne pouvaient l'être ces penseurs très isolés à l'époque qui étaient Foucault et Bourdieu.
Oui, alors ça, c'est quelque chose vous avez raison de le mentionner, qu'il faut souligner. Ce sont des pionniers, ce sont des explorateurs. Ce sont parmi les premiers à avoir fait ce travail-là, d'où aussi l'inachèvement de leurs analyses. Et si j'ai apporté quelque chose, c'est peut-être d'avoir essayé de rendre le mieux que je pouvais, avec les moyens dont je disposais, la cohérence de leur pensée. Premièrement, Foucault a quelques mois, 6 mois en gros, pour déployer ses analyses de cet objet immense que deviendra le néolibéralisme. En gros, entre janvier et avril ou mai 79. Donc 24 heures ou 25 heures de cours, c'est un travail en cours, comme il le dit, c'est un travail inachevé, c'est un work in progress, et donc on ne peut pas lui demander, comme parfois on le fait, d'avoir tout dit, d'avoir produit une analyse complètement bouclée. De la même façon, Bourdieu explore avec ses moyens à lui, ses moyens sociologiques, il explore une réalité nouvelle, en réutilisant, donc selon une démarche tout à fait différente de celle de Foucault, en réutilisant des tas de concepts, des tas d'analyses qu'il avait faites pour d'autres objets. Et évidemment, il le fait dans des enquêtes, dans des comptes rendus, dans des livres, dans des articles qui sont assez disparates. Et il me semblait utile d'essayer de réunir tout cela et de se demander s'il y avait une théorie, en quelque sorte sociologique, du néolibéralisme chez Bourdieu. La réponse, pour moi, est positive, mais elle a supposé de lire des tas de choses très différentes.
Alors, lire et relire, puisque c'est quand même l'enjeu de ce livre, et c'est le geste du relire notamment, et du remettre sur le métier qu'on va interroger dans la deuxième partie de l'émission avec Mathieu Pottebonneville qui va nous rejoindre, mais ce sera après qu'on ait entendu un bref extrait du nouvel album du groupe US Girls, Poem. Relire, remettre sur le métier, recommencer. Recommencer, c'est le titre de votre livre, Mathieu Pottebonneville. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes actuellement responsable du pôle Idées et Savoir à l'Institut français. Et vous publiez ce livre, Recommencer, aux éditions Verdier. C'est un bref livre composé de 7 chapitres, reprise, renaissance, répétition, ressac, récidive. J'ai fait exprès de ne citer que ceux qui commencent par re, puisqu'il y a là un motif. Je disais un livre de philosophe, un livre de philosophie, mais aussi un livre littéraire. Je ne sais pas comment vous le vivez, et si d'ailleurs cette manière d'étiqueter les textes a grand sens.
J'ai tendance à de moins en moins me poser la question, mais je ne pense pas que ce soit une réponse suffisante. Je pense qu'un certain nombre de livres aujourd'hui se pose la question de savoir comment les formes de la fiction peuvent contribuer à notre réflexion sur la réparation du monde. C'est le motif d'un livre récent d'Alexandre Geffen, sur la réparation des choses. Je pense à la fiction réparatrice d'Émilie Noteris. Comment est-ce que les formes de la fiction peuvent nous aider à mieux comprendre, à mieux interroger les difficultés auxquelles nos subjectivités s'affrontent dans le contexte qui est le nôtre, dans le contexte politique qui est le nôtre. On a beaucoup parlé de Foucault en première partie, j'espère qu'on va continuer d'en parler, mais c'est une question que précisément Foucault pose à la fin des années 70, c'est dans les conjonctures politiques, dans une conjoncture politique donnée, comment la subjectivité doit-elle se construire, se conduire pour inventer une façon de résister ou de passer ailleurs. Il me semble que aujourd'hui, c'est la question qui se trouve posée à nous. Alors, je ne sais pas très bien qui est ce nous, mais j'ai le sentiment que une part du camp progressiste, disons, se trouve face à une tâche immense, qui est celle de réinventer des catégories, des outils d'analyse et de mobilisation, et que nous n'avons pas forcément suffisamment interrogé la manière de s'y prendre, ce que ça nous faisait, que d'être dans cette posture-là, et qu'au fond, la difficulté d'avoir à recommencer est le plus souvent masquée par quelques discours conquérants, sur le mode « nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts », ou bien par le recours à ce qui est devenu au fond une facilité, une espèce de mélancolie persistante, ou d'attente un peu messianique que les choses reprennent, que la flamme reparte d'elle-même. Bon. Je trouve que c'est intéressant d'essayer d'examiner de près, de l'intérieur, depuis le fort intérieur, ce dilemme auquel s'affrontent ceux qui tentent aujourd'hui de recommencer, ces dilemmes d'avoir à inventer du nouveau en se souvenant que la page n'est pas blanche et en n'ayant pas tout à fait oublié le champ de décombres dans lequel nous nous situons. Une question que posait Foucault, vous citez Christian Laval à la toute fin de votre livre, cet entretien de 1977, cet entretien que Foucault donne et où il dit, ça m'a frappé parce que j'avais oublié cette interview, « Je dirais que nous sommes renvoyés à l'année 1830, c'est-à-dire qu'il nous faut tout recommencer. » Alors, il ne s'agit pas de dire que nous sommes aujourd'hui comme en 1977, mais que cette question-là, elle court comme une espèce de pointillé du temps de Foucault jusqu'au nôtre.
Accepter, Christian Laval, de recommencer, parfois de manière assez triviale, en commençant par relire, il faut avoir cette humilité-là pour avancer. Celle par exemple, de Bertrand Russell, avec lequel démarre le livre de Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, alors moi, ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre. À quelqu'un qui s'appelle Marx et qui a pour prénom Karl, et qui, à deux reprises, en 1871, en 1881, dit à la même personne, à son traducteur en russe, Danielson, qui est un populiste, qui lui dit « il faut tout reprendre, complètement ». Et il parle du grand travail du capital. Et donc, j'ai pensé à ça parce que ceux qu'on présente comme des grands héros de la pensée qui auraient fait un système, sont des gens qui ont travaillé de l'intérieur, pas comme Russell qui interpelle Frege, qui sont interpellés de l'intérieur, justement, comme dit Mathieu Pot-Bonneville, dans leur fort intérieur, par cette exigence de tout reprendre. Évidemment, Engels s'empressera de vouloir fermer et boucler l'opération, et surtout empêcher que ça recommence. Mais Foucault, lui, pose la même chose, mais à l'échelle d'un « nous ». C'est-à-dire, les gens de la génération, de sa génération, se demandent comment, après l'échec du marxisme, après l'échec des socialismes, comment tout recommencer. Et c'est peut-être aussi ce qu'il va chercher, ici ou là, en Iran, en se posant cette question. Et c'est la question, Mathieu, du soulèvement. Se soulever, c'est si important pour Foucault, parce que c'est recommencer.
Alors effectivement, c'est intéressant dans le Foucault de la deuxième moitié des années 70, c'est qu'au fond, il se pose une question et il avance avec une hypothèse. Il se pose cette question de savoir comment la subjectivité est à la fois investie par les nouvelles formes de pouvoir, investie par le pouvoir néolibéral, et comment, en même temps, la subjectivité peut être le point d'appui d'une résistance. Le cours sur naissance de la biopolitique, c'est à la fois, disons, Giscard d'Estaing et Soljenitsyne. C'est à la fois cette question qui est posée dans la politique à l'ouest des nouvelles formes de contrôle, et c'est à la fois cette figure du dissident, c'est-à-dire au fond quand même une subjectivité qui résiste, et qui résiste au pouvoir d'État. Et Foucault est dans cette ambiguïté-là. Donc tout son travail va consister à interroger ce qu'il appelle la subjectivation comme le lieu, le creuset possible d'une sortie de ces difficultés. Et puis l'hypothèse qu'il avance, celle que j'essaie de reprendre d'une autre façon dans ce livre, l'hypothèse étrange qu'il avance, c'est que la subjectivité n'est jamais si intense, si intéressante ou si inventive que lorsqu'elle se cristallise autour de dilemmes, autour de difficultés insolubles, autour de positions intenables Et que ces positions-là, c'est comme la poussière dans l'huître qui va donner la perle, ces positions-là sont celles autour desquelles des formes de comportement, des manières de se conduire se construisent. Il y a une structure dilemmatique, je ne sais pas si l'adjectif existe, du sujet chez Foucault qui va le tenir tout au long jusqu'au dernier texte. Le texte qui est paru, Les aveux de la chair, en fait encore mention dans l'analyse qu'il propose de la subjectivité chrétienne.
Livre qui vient de paraître, oui, enfin, après le quatrième volume de cette histoire de la sexualité.
De manière posthume. Cette idée que le sujet ne rencontre pas des problèmes, mais le sujet se construit autour de points de problématisation, c'est à mon avis une position très forte, très difficile à tenir, parce que nous préférons tous avoir des certitudes que des difficultés ou des contradictions, mais qui est une position, je trouve, puissante dans l'éthique de Foucault. Donc c'est cette position-là que j'essaie de faire travailler d'une autre façon et de façon littéraire, non académique, dans ce petit livre autour de Recommencer, parce que je pense que les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui ne sont pas des obstacles dont il faudrait nous détourner pour héroïquement repartir ailleurs, mais sont ce à quoi et ce autour de quoi nous avons à nous définir.
Christian Laval.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu Pot-Bonneville à propos de la subjectivité, ou plus exactement de la subjectivation, qui est la manière dont Foucault va essayer de penser les possibilités de sortie, en tout cas, du type de domination ou de type de gouvernement néolibéral. J'insisterai également sur la question des pratiques. Ce qui est très intéressant chez Foucault, me semble-t-il, c'est que il fait attention, il prête une énorme attention à ce que font les gens, aux pratiques qu'ils mènent. Il appelle ça des pratiques de liberté. Il ne croit moins, comme il le dit, au processus de libération ou aux promesses de l'émancipation, encore moins aux promesses de l'homme nouveau, parce que précisément, il sait bien à quoi cela peut mener. Il fait attention donc à des pratiques qui peuvent être des pratiques minuscules, des pratiques marginales, mais qui permettent de dessiner un ailleurs. Et là où il y a un point important, c'est qu'il ne néglige absolument pas la dimension de l'utopie, surtout dans ces années-là. Il a lu à l'été 78 Le principe espérance d'Ernst Bloch. Il y fait grande attention, et c'est pour ça d'ailleurs, dit-il, qu'il va en Iran pour faire l'épreuve, au fond, de ce que peut être l'espérance dans un ailleurs. Ce que le marxisme, ce que l'échec du communisme, etc., là, lui ont appris, c'est précisément, dit-il, que nulle lumière d'espérance n'est possible à partir de ces points-là. Il faut chercher d'autres points. Et je pense, et c'est une hypothèse que je fais, je me demande, sans qu'il l'ait très explicité, je me demande si Foucault n'a pas été profondément marqué par une expérience gauchiste qui n'était pas celle des mouvements révolutionnaires, des partis marxistes révolutionnaires, marxistes-léninistes, mais ce qui, je crois, dans le gauchisme, lui a particulièrement mis en joie, si je puis dire, et en effervescence théorique, c'est précisément la multiplication des expériences d'autres vies, d'autres formes d'activité.
Là, il y a une vraie différence pour revenir à la comparaison avec Pierre Bourdieu. Je le pointais tout à l'heure sur le terrain du rapport au libéralisme, mais au fond, c'est ni plus ni moins que la même chose que de le penser à travers le rapport au sujet. Il y a une attention pour le sujet, ou au moins pour la subjectivation chez Foucault, qu'on aurait plus de mal à trouver dans le système théorique de Pierre Bourdieu, même si Bourdieu, à la fin de sa vie, va mettre en œuvre des pratiques très concrètes pour des pratiques éditoriales, notamment, pour tenter de faire bouger les choses. Donc il y a ce souci politique que partage Bourdieu, même si on en trouve moins les outils intellectuels dans son œuvre, Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, c'est-à-dire que il y a deux choses. Pour reprendre la question de Foucault, Bourdieu et le néolibéralisme, je trouve qu'il y a deux manières de raconter cette histoire. Il y en a une première qui consiste à dire, il y a un grand mouvement contemporain du néolibéralisme, mouvement linéaire et continu, que Foucault croise lorsqu'il est encore discret, évanescent, et que Bourdieu affronte lorsqu'il a pris sa forme déployée, au fond. Et dans la mesure où c'est l'horizon de notre temps, on a besoin de l'un et l'autre. C'est une première manière de raconter l'histoire. Il y a une autre manière de raconter cette histoire qui consiste à dire que Foucault et Bourdieu ont croisé la figure du néolibéralisme comme le point d'une crise dans leur propre interrogation. Chez Foucault, l'enquête sur le néolibéralisme correspond, je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment où la subjectivité lui apparaît à la fois comme un lieu d'investissement du pouvoir et comme un lieu de résistance au pouvoir. C'est pour ça que il n'est évidemment pas un zélateur du néolibéralisme, mais il n'est pas inintéressé par les potentialités du néolibéralisme, parce qu'il peut se fabriquer à l'intérieur de cet espace-là. Bourdieu rencontre la question du néolibéralisme à l'endroit où sa conception de l'État entre en crise. C'est-à-dire où, au fond, on passe de cette idée que l'État est, à travers sa main droite, un mécanisme d'imposition et de domination de logique qui masque la réalité économique, à l'idée que l'État, au travers des services publics, est peut-être quelque chose qu'il faut défendre.
Comme un corporatisme de l'universel.
Exactement. Mais alors, c'est intéressant parce que l'un et l'autre, du coup, sont vraiment installés au point d'une contradiction qui n'est pas la même. Et je trouve que c'est aussi une bonne raison de les lire aujourd'hui, non pas pour avoir deux instruments complémentaires pour affronter le présent, mais pour avoir deux échos au problème que nous continuons à nous poser. Car au fond, nous ne savons pas complètement aujourd'hui encore ce qu'il en est de notre rapport à la liberté du sujet ou à son enrégimentement. Il y a beaucoup de questions dans les débats sur l'école aujourd'hui, par exemple. Et ce qu'il en est de la défense et de la critique de l'État. Jusqu'où défendre et jusqu'où critiquer l'État. Je trouve que, mais c'est sans doute mon côté sceptique qui parle, Foucault et Bourdieu sont chacun dans leur genre de bons aiguillons pour nous rappeler que nous n'en avons pas terminé, que nous n'avons pas réglé ces questions normatives qui sont encore les nôtres.
Oui. Christian Laval.
J'irai plus loin, et c'est pourquoi il me semble que à la fois, on peut dire que Foucault et Bourdieu sont toujours indispensables pour analyser le néolibéralisme, parce qu'il me semble, justement, l'un et l'autre approcher le phénomène néolibéral de façon différente et pas, justement, de la même manière. Mais il me semble aussi qu'on peut voir, en les relisant, les limites, les cadres qui est imposé par le cadre même de leur théorie et de leur temps. Et il me semble que aujourd'hui, on devrait prendre la question du néolibéralisme par l'opposition, par les oppositions qu'il a générées. C'est un peu ce que nous avons cherché à faire avec notre livre commun, le livre que j'ai écrit avec Pierre Dardot. C'est-à-dire qu'il faut le prendre depuis les oppositions, en considérant que les oppositions ont engendré des formes d'alternatives que ni Bourdieu ni Foucault ne pouvait prendre en compte, en particulier sur la question de l'État. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, des tas de gens se disent qu'il ne suffit pas d'en appeler à l'État contre le marché, qu'il faut au contraire développer des tas de formes d'activités qu'on appelle aujourd'hui des communs, contre, justement, et le marché et l'État.
Merci beaucoup, Christian Laval. Rappelle le titre de votre livre, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale. Il paraît aux éditions La Découverte. Et celui de Mathieu Pott-Bonneville, Recommencer. Il paraît aux éditions Verdier. Vous trouvez les références bibliographiques des deux ouvrages sur la page de la suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission, sur laquelle aussi vous pouvez vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donné à la technique Benjamin Vignal, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Et dans quelques instants sur l'antenne de France Culture, c'est Christine Bernard que vous retrouvez pour une histoire particulière.